Bonjour à tous. Je voudrais aborder avec vous un thème que je vous avoue avoir eu du mal à préparer. Alors, on va faire cache dès le départ. Merci aux musiciens, merci à Valérie, à toute son équipe là, de nous avoir conduits dans la louange et la présence de Dieu, parce que je crois que c'est vraiment de ça dont nous avons besoin. Que le Seigneur soit présent, qu'il soit là. La foi, ce n'est pas que des mots, la foi, c'est vraiment des choses à vivre. Il y a tellement de choses que nous sommes appelés à vivre, tellement de choses que nous sommes appelés à nous saisir par la foi pour que notre vie passe d'une étape à une autre. En réalité, la vie chrétienne, c'est ça, c'est être à un endroit et puis avoir pour objectif d'aller plus loin, marcher toujours plus loin avec le Seigneur. Et le sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que c'est celui des crises que nous pouvons vivre les uns et les autres dans notre existence. Des crises, on peut en connaître dans plein de domaines de notre vie. On peut connaître des crises lorsque nous sommes sur notre lieu de travail. On peut connaître des crises au niveau relationnel avec nos voisins, des membres de notre famille. Des crises, on peut en connaître dans de multiples domaines comme cela. Mais la crise dont je voudrais vous parler, sur laquelle je voudrais qu'on vienne ensemble ce matin, c'est ces crises qui viennent dans notre vie quand... dans notre existence, et à un moment donné, on se retrouve dans une situation à laquelle on ne s'attendait pas. On se retrouve dans une situation qu'on a du mal à accepter, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, c'est quelque chose qui a tourné dans notre vie, pas du tout dans la direction et dans le sens qu'on pensait. Et ça, ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des impacts, et notamment sur notre relation avec Dieu. Et je vous avoue que ce message-là, je l'ai refait. Il y a une partie que j'ai complètement réécrite, il y a une partie que j'ai enlevée. Heureusement, je n'ai pas eu à m'occuper du PowerPoint, c'est mon fils Cilien qui a bien voulu s'en occuper pour celui-ci, donc ça m'a dégagé de ça. Mais j'ai le sentiment que pour certains d'entre nous, il faut qu'on récupère quelque chose qui nous a été volé. À un moment donné, on était parti dans notre vie avec Dieu, on avait des perspectives, des objectifs, et puis il y a quelque chose qui s'est enrayé. Le mécanisme là, c'est brisé et ça a ralenti votre marche avec Dieu. Il y a quelque chose qui est parti, qu'il faut récupérer. Et j'aimerais vraiment de tout cœur, et c'est ma prière, que ce matin, ça serve à ça. Que ce que nous allons voir ensemble puisse servir à ça. Pour traiter cette question, on va se pencher sur l'une des histoires les plus populaires de la Bible, à la fois les plus populaires, mais un peu les plus curieuses aussi, parce que c'est une histoire pas banale. C'est l'histoire de Jonas. L'histoire de Jonas. Il y a certainement de bonnes choses à tirer de ce texte-là. Alors, un texte très populaire, parce que il y a l'histoire du gros poisson qui va avaler Jonas. Et ça suscite l'inspiration, la foi pour les chrétiens. Pour les non-chrétiens, c'est plutôt la rigolade et la moquerie. Mais il y a de bonnes choses à tirer. Un jour, dans le cadre du club des enfants, il y avait un moniteur qui avait raconté l'histoire de Jonas aux enfants. Il avait raconté comment Dieu avait appelé Jonas à aller proclamer le message de repentance aux habitants de Ninive. Comment Jonas avait tourné le dos à Dieu, qu'il avait pris un bateau pour s'enfuir loin de Dieu, comment pendant qu'il était sur la mer, sur l'océan, la tempête est venue, et parce que là, c'était la conséquence de cette fuite de Jonas, comment les marins se sont saisis de Jonas et l'ont jeté par-dessus bord, comment Jonas a été avalé par le poisson, comment il a prié dans le poisson, comment il a été rejeté sur le rivage, et comment après il est allé à Ninive pour pouvoir apporter la parole de Dieu, et comment les Ninivites se sont tournés vers Dieu, etc., etc. Et puis lorsque le moniteur a fini de raconter l'histoire de Jonas, il a posé la question, alors quels enseignements peut-on tirer de cette histoire? Et il y a une petite fille qui a levé la main, qui dit, je crois que c'est plus prudent de voyager en avion. Alors c'est pas faux, mais il y a certainement d'autres choses à tirer de cette histoire. Et je voudrais qu'on se penche sur ce texte, verset après verset, sur les deux premiers chapitres, pour voir ce que nous pouvons tirer de ce texte. Et je voudrais voir dans un premier temps, tout d'abord, là, à travers de cette histoire de Jonas qui fuit, de Jonas qui part, qui est en cavale, premièrement, ce qui provoque la crise. Dieu appelle Jonas pour l'envoyer à Ninive. C'est ce que nous lisons au début du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville, prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais Jonas, ça l'embête. Ça l'embête de partager ce message de grâce avec les habitants de Ninive. Parce que les habitants de Ninive, ce sont des étrangers. Ce sont des idolâtres. Ce sont des personnes qui adorent les faux dieux. Et lui, il est prophète, prophète dans le royaume du Nord, prophète en Israël. Et son ministère, sa mission, la mission qui lui est confiée par Dieu, c'est de proclamer l'existence du seul et unique Dieu, le Dieu d'Israël. Et pourtant, la situation à Ninive, elle n'est pas tellement différente à ce moment-là en Israël, parce qu'en Israël, dans le royaume d'Israël, le roi, qui s'appelait Jéroboam à l'époque, et toute la population était elle-même tournée vers les idoles. Jéroboam était un idolâtre et il entraînait aussi le peuple dans l'idolâtrie. Mais Jonas avait vu comment Dieu avait compati avec Israël. Malgré le mal que le roi avait fait et que le peuple accomplissait, Dieu avait envoyé Jonas annoncer au roi Jéroboam qu'il allait récupérer toutes les portions du territoire d'Israël qui avaient été accaparées par les voisins, par ses ennemis. On le lit ça dans le deuxième livre des rois, au chapitre 14, entre le verset 25 et le verset 27. Jéroboam reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël, depuis Lebo Hamath au nord jusqu'à la mer Morte au sud, conformément à ce que le prophète Jonas, fils d'Amittai, notre prophète de Gath-Hépher, avait annoncé de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël. En effet, le Seigneur avait vu la tragique misère de ce royaume. Il n'y avait personne, vraiment plus personne, pour secourir Israël. Mais le Seigneur n'avait pas décidé d'exterminer ce peuple, c'est pourquoi il le délivra par le moyen de Jéroboam, fils de Joas. Et Jonas, quand il a reçu l'appel pour aller à Ninive, il s'est dit, là, Dieu, il va faire la même chose. Je vois ça arriver, gros comme une baleine, il va faire la même chose qu'il a fait avec Israël, il va le faire avec les Ninivites, avec les habitants de Ninive. Jéroboam, c'était un roi infidèle. Et Dieu a permis que par Jéroboam, le peuple d'Israël puisse reconquérir les portions du territoire qui lui avaient été volées. Déjà, ce n'était pas logique. Quelque part, ce n'était pas logique. C'est la grâce de Dieu, ça. C'est la grâce de Dieu. Mais qu'il se passe la même chose avec des étrangers, avec des idolâtres, avec un peuple qui a massacré des populations, un peuple qui avait fait des misères, même au peuple d'Israël, le peuple d'Assyrie. Là, que cette ville qui était peuplée de personnes violentes, immorales, une ville dans laquelle il y avait des hôtels aux dieux, dans toutes les rues, comme ça. Non, ça, c'est pas logique, c'est pas logique du tout. Donc Jonas, il a du mal à faire ce pas-là. Il dit non, il dit, c'est assez, je veux pas. Elle est bonne celle-là, elle est subtile mais elle est bonne. Je veux pas, c'est terminé. Jonas ne voit pas les choses comme Dieu. Jonas réfléchit à la place de Dieu. Il dit non, il y a un contrat qui était passé avec Israël, donc c'était pas logique. Et là, il n'y a pas du tout de contrat qui est passé entre les Ninivites et puis Dieu. Donc non, ce n'est pas logique. Il sait ce que Dieu devrait faire. Il sait comment Dieu devrait faire. Il sait ce qui est logique. Et c'est une parole claire pourtant que Dieu lui adresse. Mais Jonas discute. Jonas tergiverse. Il argumente parce que cette parole ne correspond pas à sa logique. Et ce qui entraîne la crise, c'est qu'on a du mal à voir les choses comme Dieu. Il y a un déphasage entre ce qui s'accomplit, ce qui semble être la volonté de Dieu, et ce que nous aimerions être notre volonté. Et c'est généralement ce déphasage-là, le fait que ça coïncide mal, qui entraîne la crise. Notre nature, elle nous porte à considérer les choses selon notre propre logique. Mais si nous imposons notre logique à Dieu, et c'est ce que va faire Jonas, on va tout réduire. On va tout réduire à notre dimension. Et on trouvera toujours de très bonnes raisons pour ne pas faire la volonté de Dieu, pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, pour ne pas entrer dans la mission que Dieu nous confie. Vous savez, ça commence dès le début de la vie chrétienne, ça commence avec ce message de la grâce. C'est ce message de la grâce que Jonas devait parler. C'est ce message de la grâce qui fait que nous devenons des croyants, que nous devenons des enfants de Dieu. Là, c'est d'accepter que Jésus est mort pour le pardon de mes fautes, d'accepter que Jésus est mort et a accompli le salut en mourant à la croix. Et lorsque je crois cela, c'est ce qui me permet d'avoir cette relation avec Dieu, c'est ce qui me permet de pouvoir entrer dans la présence de Dieu, c'est ce qui me permet de pouvoir bénéficier de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Je n'ai rien à accomplir pour mon salut. Il y a quelques années de cela, j'avais eu l'occasion de discuter avec un professeur, et à un moment dans la conversation, elle a tourné sur les choses spirituelles, et on a pu échanger à propos de l'Évangile. Et dans la conversation, alors qu'on parlait de la grâce de Dieu, du salut quand même, il me dit, moi je ne peux pas accepter que Dieu me voie comme un incapable. Donc il faut que je fasse quelque chose pour être sauvés. Et ça, c'est un raisonnement qui nous fait passer à côté de ce que Dieu veut pour nous, à côté du message qui nous fait entrer dans sa présence et qui nous permet d'envisager la vie éternelle. Une autre fois, j'avais eu la possibilité de discuter avec une personne dans le cadre d'un entretien, et il disait, moi j'ai reçu une éducation chrétienne et je me suis efforcé de vivre selon ce que j'avais reçu, et c'est ce que j'ai communiqué, c'est ce que j'ai transmis à mes enfants, et puis il se trouve que ma fille, l'une de mes filles, elle s'est mariée, et puis elle a divorcé, et puis elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Et ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que ce n'est pas ce qu'on m'a instruit, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, et ce n'est pas ce que j'ai dit à ma fille. Alors j'ai fait le choix de ne plus avoir de relation avec elle. Et là, je suis isolé, parce que je suis le seul qui ait fait ce choix dans ma famille. Je dis, mais la foi chrétienne, la question que j'ai posée, est-ce que votre fille, elle est chrétienne? Est-ce qu'elle-même, elle est croyante? Je dis, elle a reçu cette éducation, puis après, elle a fait son chemin. Elle a pas véritablement persévéré dans la foi, elle a pas pris. Je dis, Là, vous faites un choix qui va vous couper de la relation avec votre fille, alors que votre fille n'est même pas croyante. Et en plus de cela, vous vous mettez à dos tout le reste de la famille. Alors que vous voulez témoigner de votre foi. Mais vous passez à côté de la mission que vous vous donnez, en fait. Parce qu'on passe à côté du message de la grâce. Et on ne marche pas forcément selon la grâce. Tout commence avec une juste compréhension du message de la grâce. Et puis ça continue dans notre vie personnelle. Dans notre vie personnelle, nous avons des souhaits, nous avons des aspirations. Je veux faire telle étude, je veux me marier avec telle personne ou avec tel type de personne. Je veux travailler dans telle entreprise et dans cette entreprise, je voudrais avoir ce poste-là. Je veux m'occuper de ce dossier-là, je veux traiter avec ce client-là. Je veux avoir une maison comme ça, je veux avoir des amis comme ça, je veux avoir ces amis-là. Et puis quand les choses ne se passent pas comme on les a imaginées ou comme on les a souhaitées, quand ça ne prend pas la tournure qu'on veut, on s'éloigne de Dieu. Et encore une fois, on va passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Il y a un déphasage. Même chose pour notre service dans l'Église. Je veux bien intégrer ce service, je veux bien m'engager, je veux prendre du temps pour ça, mais je veux que ça se passe comme je l'entends. Je veux travailler à condition que je travaille avec telle personne. Mais si nous raisonnons comme ça, on peut s'éloigner de Dieu, comme l'a fait Jonas, parce que si ça ne passe pas, si ça ne fonctionne pas, on s'éloigne de Dieu et on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous et de la mission qu'il nous a confiée. Les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitons. Ça n'empêche pas que Dieu a un plan parfait et que ce plan parfait, il veut l'accomplir au travers de notre vie, au travers de notre service, dans l'Église, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre famille, dans notre cercle d'amis. Nous pouvons nous épanouir dans notre vie spirituelle. Il y a des choses là qui ne coïncident pas avec ce qu'on avait prévu, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de notre vie spirituelle. On peut s'épanouir dans notre vie spirituelle, on peut s'épanouir dans notre service, on peut s'épanouir dans notre engagement, on peut être source de bénédiction dans des lieux et dans des domaines très différents les uns et les autres. Mais pour cela, on a constamment besoin de faire confiance en Dieu, d'aligner notre logique sur celle de Dieu. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas toujours facile. Il y a des moments où on est dans des situations, mais on ne comprend pas, on ne comprend pas. Et on ne peut pas tout comprendre. Je crois que si on comprenait tout de Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu est infini, Dieu est éternel. Lui, il est omniscient. Comment nous, qui sommes finis et pas éternels, nous pourrions tout comprendre de Dieu? Si nous devions tout comprendre de Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Alors, ce n'est pas facile quand on est dans une situation où on ne comprend pas. Mais on a encore moins de chances de comprendre si on coupe la relation avec Dieu. Si, comme Jonas, on fuit Dieu. Je voudrais voir dans un deuxième temps quelles sont les réactions que nous pouvons avoir face à la crise. Parce que Jonas, lui, il est vraiment catégorique. Il refuse de répondre à l'appel de Dieu. C'est ce qu'on lit dans la suite du texte, toujours au chapitre 1, les versets 3 et 4. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face du Seigneur. C'est assez radical comme décision, vous serez d'accord avec moi, parce que le but là que se donne Jonas, c'est de ne plus avoir de contact avec Dieu. Deux fois, il a été dit qu'il voulait être loin de la face du Seigneur. C'est ça son objectif. Ce n'est pas tant par rapport à la mission que par rapport à Dieu lui-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est cassé entre Jonas et Dieu. Dieu l'envoie à Ninive, ça se trouve à l'est. Ninive, c'est dans l'Irak actuel, c'est Mossoul. On a entendu pas mal parler de Mossoul ces derniers temps parce que ça a été la capitale de l'État islamique pendant 3 ans. Donc Dieu l'envoie à l'est et lui, il va dans un port qui est le plus proche de Jérusalem pour pouvoir partir à l'ouest. Tarsis, c'est l'Espagne. Donc c'est le bout du monde à ce moment-là parce qu'après l'Espagne, il y a la mer et à cette époque-là, à l'époque de Jonas, on ne savait pas ce qu'il y avait quand on dépassait l'Espagne, quand on arrivait dans l'Atlantique. Donc il veut trouver la paix. Quitter le pays d'Israël, c'est partir loin de Dieu pour trouver la paix. Mais quand il va sur la mer, qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve la tempête. Et c'est souvent ce qui arrive, malheureusement. Plus on veut prendre de distance avec Dieu, et plus on augmente nos chances de se retrouver dans les problèmes, dans la tempête. Il ne veut pas entendre la parole de Dieu, mais continuer sa vie sans entendre la parole de Dieu, ça nous amène dans la tempête. Ça nous amène, ça approfondit la crise. Le texte décrit ensuite les différentes réactions que nous pouvons avoir en temps de crise. On va lire du verset 5 au verset 12. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à faire naufrage. Car les marins... Hop là, ça va être un peu difficile. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi. « Que fais-tu là ? Tu dors ? Lève-toi donc, appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. » Les marins se dirent entre eux, « Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors, « Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce que tu fais ici. D'où es-tu ? De quel pays ? De quel peuple ?» Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et la terre. » Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » lui demandèrent-ils. « Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ?» La mer était en effet de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » Devant le danger, on va s'intéresser aux différentes réactions qui sont là dans le texte, parce qu'il y a la réaction des marins et puis il y a la réaction de Jonas. Devant le danger, tout d'abord, les marins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils invoquent leur Dieu. Donc on voit, ce ne sont pas des Israélites, ce sont des païens, ils ont chacun leur Dieu. Et dans l'Antiquité, à l'époque de Jonas, le rôle des dieux, c'était uniquement d'assurer la bénédiction et la protection de ceux qui les honoraient. Il y avait un contrat qui était passé entre les hommes et puis les dieux. Et le contrat, c'était « je t'honore, mais tu me bénis. Je t'honore, je te fais des offrandes, mais tu me protèges. » Et chaque, dans ces nations qui étaient polythéistes, qui adoraient plusieurs dieux, il y avait un dieu pour chaque activité. Et quand notamment les Phéniciens, qui étaient les marins les plus expérimentés de l'époque de Jonas, quand ils partaient en mer, ils donnaient des offrandes à Astarté, c'est une divinité dont il est question dans la Bible. Mais ils avaient une divinité qui s'appelait Melkarth. Et Melkarth, c'était la divinité de l'océan et du commerce. Et comme les Phéniciens, c'était des gens qui étaient très forts en commerce, parce qu'ils ne pouvaient pas faire d'agriculture dans leur pays, leur pays c'est le Liban actuel, il y a très peu de plaines. Donc en fait, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ils faisaient du commerce et ils partaient sur la mer. Et ils ont colonisé comme ça un peu toute la Méditerranée. Donc en fait, Melkarth était le dieu de la mer et le dieu du commerce. Donc ça veut dire, quand je vais en mer, protège-moi, et quand je vais en mer pour faire du commerce, bénis-moi. C'est tout ce qu'on demandait aux dieux. En fait, dans le cadre de ce type de relation avec les divinités, le dieu ne donnait pas, ne disait pas à leurs adorateurs comment ils devaient vivre. Vous voyez, il n'y avait aucune dimension morale, aucune dimension éthique. Il y avait juste un contrat. Je te donne et tu me bénis. Je te donne et tu me protèges. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on voit que les marins, ils invoquent leur divinité, les divinités qui devaient les protéger lors de leur voyage sur la mer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'adresse à Jonas. Il dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors, mais prie ton Dieu. Là, on a besoin de protection, on a besoin d'être protégé. Et quand ils comprennent que Jonas est en train de fuir son Dieu, ils paniquent. Ils se disent, oh là là là, c'est à cause de lui qu'on est dans, dans la tempête, c'est à cause de lui qu'on est dans cette galère, on peut le dire là vraiment. Et il panique complètement, il dit, et lui, au lieu de prier, il dort. Ça, c'est la réaction religieuse. Et quand on vit un temps de crise, on peut avoir ce type de réaction religieuse. Quand ça va mal, je me tourne vers Dieu. Quand les problèmes sont là, eh ben là, je deviens subitement spirituel. On ne lit pas trop la Bible, on prie de temps en temps, on vient à l'église si bon, on n'a pas trop de choses plus importantes ou d'autres choses mieux à faire. Mais quand la crise arrive, quand la situation à laquelle je ne m'attendais pas, elle est là, ça déclenche soudainement une disposition à prier, à invoquer Dieu, à chercher Dieu. Pourquoi ? Mais c'est juste pour bénéficier de la protection de Dieu à ce moment-là. J'ai besoin d'être protégé. Donc d'un seul coup, hop, on fait cette démarche-là. Et quand on est sorti de la crise, souvent, la vie après, elle reprend comme avant, parce que Dieu n'est là que pour protéger et pour bénir. C'est juste ce qu'on voit de Dieu. Lui, Jonas, il est dans une réaction qui est complètement différente. Il n'a pas l'air de s'affoler. Il va au fond du navire, au fond du bateau, dans l'endroit le plus reculé du bateau. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'endort. Étonnant, hein, quand on est dans la tempête, que là, le navire commence à se briser et que la tempête ne se calme pas, lui, il dort. Alors, ça pourrait donner l'impression que Jonas, il est tranquille. Mais ce n'est pas ça. Il n'est pas tranquille du tout. C'est au contraire. C'est tout le contraire. C'est parce qu'il est conscient que c'est sa fuite qui provoque la tempête. Et quitter Israël, pour lui, c'était mettre de la distance entre lui et Dieu. Il ne veut plus entendre parler de Dieu. Il est en train de fuir le plus vite qu'il peut. Je pense qu'il dépasse les 80 km/h, là. Il risque de se faire flasher, mais il part, il fuit. Il veut mettre la plus grande distance entre lui et Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pensait échapper à Dieu en prenant la mer, et Dieu le rattrape au milieu de la mer. Dieu le rattrape au milieu de la mer. Il réalise que c'était impossible d'échapper à Dieu. Au verset 9, il le confesse comme le Dieu qui a créé les mers et la terre. Quand le marin lui dit, mais d'où tu viens ? Il dit, moi, je suis adorateur du Dieu qui a créé les mers et la terre. Ben oui, il ne pouvait pas échapper à Dieu en allant au milieu de l'océan. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va au fond du bateau, il se replie au maximum sur lui-même et il tente de ne plus être conscient de la présence de Dieu. Il se replie totalement et complètement sur lui-même. Ça fait penser, des fois, vous savez, quand il y a des enfants qui font des bêtises. Je ne sais pas, n'importe quoi, un enfant qui dessine sur le mur de sa chambre. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Moi, j'ai un fils qui est artiste, et ses premières armes, il les a fait sur le papier peint de sa chambre. Un matin, on est rentré. Oh, c'était pas mal hein, pour son âge. Mais c'est une bêtise, c'est une grosse bêtise. Vous savez, des fois, les enfants, quand ils font des bêtises, et imaginez, on est dans cette situation, les enfants, ils ferment les yeux comme ça, et puis ils pensent que le papa, la maman qui est là, il ne les voit pas. Non, là, il ne va pas voir ce que j'ai fait, il ne me voit pas. C'est l'attitude de Jonas. En fait, il réagit exactement de cette manière-là. Il pense qu'il peut mettre de la distance entre lui et Dieu, mais Dieu est partout. Il est le Dieu de la terre, il est le Dieu des océans, il est partout. Ça, c'est la réaction de la fuite. On peut avoir la réaction de la religion, mais on peut avoir la réaction de la fuite, la réaction du refus. C'est quand les choses ne se passent pas quand on veut, eh ben, là, on se replie. On se replie sur soi-même, on veut prendre de la distance avec Dieu. On ne lit plus la Bible, on ne prie plus, avec notre entourage, on ne parle plus, on n'évoque pas vraiment ce qui nous a déçus, ce qui nous a blessés. Et on peut faire en sorte de couper avec Dieu, de ne plus vouloir être conscient de sa présence. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et lui, il ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire. Jonas fuit, mais Dieu lui court après. Moi, je suis heureux de croire dans ce Dieu-là. Je suis heureux de croire dans ce Dieu-là parce que ça veut dire une chose qui est très importante et qu'il faut qu'on intègre totalement dans notre logique de chrétien et de chrétienne. Ça veut dire que quels que soient les sentiments qui peuvent passer par mon cœur, quelles que soient les choses, les raisonnements qui peuvent passer par ma tête, ça ne fera jamais changer Dieu par rapport à nous. Les choses et les attitudes, les comportements que nous pouvons adopter quand nous sommes en conflit avec quelqu'un, Dieu ne les adopte pas. Il nous court après. Jonas est en cavale. Mais Dieu lui court après et il le rattrape au milieu de l'océan. Et c'est ce qui nous amène à voir dans une troisième, dernière partie, qu'est-ce qui ressort de la crise ? Qu'est-ce qui peut ressortir de la crise ? Dieu n'est intéressé ni par la réaction religieuse, ni par la réaction de fuite. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, Dieu. Ce qu'il veut, c'est être reconnu pour ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il est, Dieu ? Il est Dieu, c'est ça, il est Dieu. C'est ce qu'il veut pour les marins, et c'est ce qu'il veut pour Jonas. Si Dieu est Dieu, il est maître de tout. Si Dieu est Dieu, il contrôle tout. Si Dieu est Dieu, il gère tout. Ce qu'il demande, c'est de croire cela et de lui faire confiance. Jonas fuyait Dieu, mais il était poursuivi par Dieu. Jonas voulait mettre le plus de distance possible entre lui et Dieu, mais Dieu l'a rattrapé. Et quand Jonas réalise que ça ne sert à rien de fuir Dieu, il considère que la seule solution pour sortir de la tempête, c'est d'être jeté à la mer. Et là, on pourrait se dire, mais c'est quoi? C'est le désespoir qui l'anime? En fait, il y a peut-être un mélange de plusieurs choses qui sont passées dans son cœur à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du désespoir. Jonas, en même temps, il soumet sa vie à Dieu. Il admet sa responsabilité. Il dit, oui, cette situation-là, je sais que les conséquences de cette situation, et il y a des fois des choix qu'on fait qui ont des conséquences, pas seulement sur nous, mais sur notre entourage. Les conséquences de cette situation, c'est moi, ça vient de moi. Donc, il comprend ça, il voit comment sa responsabilité est engagée. Alors, en demandant qu'il soit jeté dans la mer, dans l'océan, il est en train de soumettre sa vie à Dieu. Et ça va avoir un impact sur les marins. Regardez ce qui est dit au chapitre 1, toujours, et au verset 13 à 16. Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas, car la mer se déchaînait. Alors ils appelèrent le Seigneur au secours. « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait, car c'est toi, Seigneur, qui as agi comme tu l'as voulu. » Verset suivant. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice et lui firent des promesses solennelles. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui a évolué dans l'esprit des marins. Il s'est dit, le Dieu d'Israël, c'est le seul vrai Dieu. Nous, on a invoqué nos divinités, il ne s'est rien passé. On a compris que c'était lié à Jonas, on s'est tourné vers son Dieu, on a fait là ce que Jonas avait demandé, mais on n'a pas simplement été béni, on n'a pas simplement été protégé. Maintenant, on offre notre sacrifice à Dieu. Maintenant, on s'engage vis-à-vis de Dieu, on fait des vœux, des promesses solennelles. Donc on voit que les marins, ils passent d'une relation fonctionnelle avec la divinité à une véritable, à une réelle relation avec le seul vrai Dieu. Ils sont en train d'envisager cette relation d'une manière complètement différente. Et c'est ce que Dieu veut. Ça ne l'intéresse pas tellement d'avoir simplement une relation fonctionnelle. Il aime nous bénir, il aime nous garder, il aime nous protéger. Il le fera parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais il veut quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus réel avec chacun d'entre nous. Et c'est ça la vraie source de notre épanouissement. Donc si on fait le choix de mettre de la distance par rapport à ça, on va passer à côté de ce qui va nous renouveler, de ce qui va nous restaurer, de ce qui va nous fortifier. On peut faire comme les marins. Dire, tu m'as béni, tu m'as protégé, tu m'as sorti de cette situation et je reprends ma vie. Mais on peut faire là ce qu'ils ont fait, là le choix qu'ils ont fait par rapport au seul vrai Dieu. Ok, maintenant on ne te perd plus de vue. Le Dieu d'Israël, là maintenant on continue de marcher ensemble, on continue de naviguer ensemble parce qu'on a vu ta main. Et là j'ai envie de te connaître plus, j'ai envie de m'engager. Je te fais cette promesse. C'est ce qui se passe dans le cœur des marins. On voit l'impact que ça peut avoir. Ça, il y a un pas à faire quand on a compris l'amour et la grâce de Dieu. C'est celui de répondre à cet amour en établissant une vraie relation avec Dieu. En ce qui concerne Jonas, son abandon entre les mains de Dieu a un effet immédiat. Il est sauvé de la noyade. C'est ce qu'on lit dans la suite du texte. Jonas 2, verset 1. « Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. » Alors, ce n'est pas une baleine. Généralement, c'est ce qu'on pense. C'est un peu l'image populaire qu'on a de Jonas qui est mangé par la baleine. En fait, on ne peut pas rentrer dans le ventre d'une baleine. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, ça serait plutôt un requin. Un requin, ça avale n'importe quoi. Et ça peut avaler sans croquer. Donc, on a retrouvé des animaux entiers dans les ventres des requins qui ont été pêchés. Et on a même une histoire. J'ai retrouvé ça. C'est super intéressant. Ça date un peu. Mais en 1758, dans la mer Méditerranée, donc là où ça se passe pour Jonas, il y a un marin qui est tombé de sa frégate, de son bateau. Il a été avalé par un requin. Et le capitaine de la frégate, il a fait tirer sur le requin, il a été percuté par un boulet, et le requin, il a vomi le matelot qui est ressorti vivant. On a ce témoignage-là. 1758, deuxième témoignage, en 1891, c'est intéressant. Il y a plusieurs journaux qui ont raconté l'histoire d'un dénommé James Bartley qui a été avalé par un cachalot dans l'Atlantique. Il a été retiré vivant 36 heures plus tard. Ils ont pêché le cachalot, le gars, ils l'ont sorti, il était blême. Mais blême, je veux dire, il était tout blanc, parce que les sucs digestifs lui avaient brûlé les cheveux, il avait la peau toute blanche, et pendant 3 semaines, il était dans un état catatonique, il ne parlait plus, il était fou, en fait. Il a repris ses esprits trois semaines plus tard. Bon, voilà, c'est un témoignage qui a quelquefois été contesté, ça. Mais on a quand même ces histoires-là qui ressemblent à celles de Jonas. Et Jonas, lui, se retrouve dans le ventre de ce poisson, de ce grand poisson. Et ensuite, il fait une prière qui exprime à la fois la situation dramatique dans laquelle il se trouve, dans laquelle il se trouvait dans l'eau, mais en même temps sa reconnaissance d'en être sauvé. Et on va lire ensemble cette prière que Jonas a faite au chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. De là, il adressa cette prière au Seigneur son Dieu. Alors soyons attentifs. Et peut-être que certains d'entre nous, on a besoin de faire cette prière. On va prier là, en se fondant sur cette prière de Jonas. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi. Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'entouraient, tu faisais déferler sur moi vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur. Pourtant, j'aimerais revoir ton Saint-Temple. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. J'étais descendu à la base des montagnes. Le monde des morts fermait pour toujours ses verrous sur moi. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait retirer, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Au moment où la vie me quittait, j'ai pensé à toi, Seigneur. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, à ton Saint-Temple. Ceux qui rendent un culte aux faux dieux perdent toute chance de salut. Mais moi, je chanterai ma reconnaissance. Je t'offrirai un sacrifice et je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. C'est toi, Seigneur, qui me sauve. Sur un ordre du Seigneur, le poisson rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas n'a absolument aucun contrôle sur les circonstances. Il ne peut faire qu'une seule chose. Il ne peut être qu'avec Dieu. Il n'a aucune autre possibilité. Vous savez, c'est ce que je vous ai déjà raconté, mais moi, ça me rappelle ce que j'ai vécu après mon accident. Comme j'étais touché au cervical, je ne pouvais pas bouger, j'avais une minerve. Et le moindre mouvement, en fait, faisait que ma moelle épinière pouvait être touchée, pouvait être sectionnée. Et bien, dans ces moments-là, je ne pouvais rien faire d'autre que de regarder à Dieu. Parce que les journées sont longues quand on est sur un lit comme ça allongé, qu'on ne voit que le plafond tout le temps, pendant 7 jours. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était « Dieu, viens me donner ta paix. Dieu, j'ai besoin de ta présence. Je veux vivre ta présence. » Jonas, il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas d'autre possibilité que d'être avec Dieu. S'il fixe son attention sur les circonstances, tout est source d'angoisse. Vous savez que le mot angoisse, ça vient d'un mot latin, angustia, qui veut dire serré, étroit. Et c'est souvent ce qu'on ressent quand on a de l'angoisse. On est serré à l'intérieur. Et là, Jonas, il est serré. Il est serré. On essaye de se mettre à la place de Jonas, là. Moi, j'ai eu beaucoup de poissons dans mon ventre. Je ne suis jamais allé dans le ventre d'un poisson. Mais si, là, on imagine un peu, on est dans le noir, il n'y a pas l'électricité dans le ventre du poisson, on ne voit rien. On est secoué, on est tout serré, on entend le bruit sourd de l'océan, ça pue. Enfin, c'est vraiment une situation mais qui est complètement inconfortable. Il est sauvé de la noyade, on est bien d'accord, c'est déjà pas mal. Mais bon, la situation n'est pas idéale. Il y a eu un premier miracle qui fait qu'il est sauvé de la noyade, mais là il en faut un deuxième, c'est de sortir du poisson. Et là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que là, Jonas, j'imagine, il se dit, ben là, je vais pas rester 10 ans dans le poisson non plus, c'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut. C'est ce qui se produit. Il est rejeté. Là, le texte dit bien que c'est sur un ordre de Dieu que le poisson rejette Jonas. Et Jonas, il pourra alors accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Cette mission qui est d'annoncer le salut aux habitants de Ninive. À nouveau, la parole de Dieu va lui être adressée. Et cette fois-ci, il va se lever, il va prendre une douche et il va partir pour annoncer le salut aux habitants de Ninive. Il se met à nouveau à l'écoute de Dieu pour entrer dans sa mission. Et ça va marcher, parce que dans la suite de l'histoire, les habitants de Ninive vont écouter, recevoir la parole de Dieu, et ils vont demander pardon à Dieu pour leur méchanceté et leur péché. Ça met du temps de sortir des situations difficiles, ça met du temps de sortir des situations de crise. Et souvent, ça se fait petit à petit, ça se fait par étapes, comme ça s'est fait pour Jonas. Les problèmes administratifs qui n'en finissent pas, on croit qu'on en a tiré, qu'on a envoyé le bon courrier, et puis ça nous revient, il faut aller au bureau 33, toi. On n'en sort pas. Les problèmes financiers, les problèmes professionnels, les problèmes relationnels, ça met du temps. Et même quand la situation, elle évolue, on n'a pas plus prise sur les événements. On aimerait, mais on n'a pas plus prise sur les événements. Mais au sein même de l'épreuve, Dieu prend soin de nous. Au sein même de l'épreuve, là où nous sommes, alors qu'on est coincé, alors que l'angoisse peut être là, Dieu prend soin de nous. Le défi pour nous, c'est de rester confiant, comme Jonas l'a été, quoi qu'il advienne. J'ai confiance. Écoutez bien ça. Ce que j'ai commencé à partager mardi de la semaine dernière en rayon de prière, mais sans Dieu, l'épreuve nous déforme. Avec Dieu, elle nous forme. Sans Dieu, l'épreuve nous difforme. Avec Dieu, elle nous transforme. Sans Dieu, l'épreuve nous disqualifie. Avec Dieu, elle nous qualifie. Jonas n'avait pas les ressources pour pouvoir entrer dans la mission qui lui avait été confiée par Dieu. Mais après avoir vécu ce qu'il a vécu, il devient le prophète qui va partir à Ninive pour annoncer le salut. Il est qualifié, il est transformé, il a été formé par Dieu. Il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait donner, mais il y a un exemple que je voudrais partager avec vous, on va voir une petite vidéo, c'est celui de Monique Lépine. C'est un témoignage mais extraordinaire. S'il y a bien quelqu'un qui a vécu l'angoisse, c'est bien cette femme-là. En fait, en 1989, au Canada, à Montréal, il y a eu une tuerie dans l'école polytechnique. Une tuerie qui a fait 14 victimes, 14 femmes, 14 étudiantes, et il y a eu 14 blessés. Et l'auteur de cette tuerie a ensuite retourné l'arme contre lui et s'est donné la mort. Il s'agit de Marc Lépine. Sa maman était chrétienne. Le soir de la tuerie, elle va à l'église parce qu'il y avait une réunion de prière qui était organisée, et elle a à cœur de prier pour la maman du tueur. Et à ce moment-là, elle ne se rendait pas compte, elle ne savait pas qu'elle était réellement la maman du tueur. Vous imaginez, une mère, une chrétienne. Elle va apprendre que c'est son fils qui a commis cette tuerie-là le lendemain. Elle va être convoquée par la police, elle va être interrogée pendant des heures. Les policiers vont essayer de savoir toute la vie de son fils, en fait, pour comprendre ce qui l'a amené à ce geste terrible-là. Et une fois que ça va être terminé, elle va être obligée d'affronter... Sa vie est dévastée, totalement, complètement dévastée. Maintenant, elle va affronter la honte d'être la mère de Marc Lépine, parce que maintenant, tout le monde connaît le nom de ce tueur. La honte de porter ce nom-là, à tel point qu'elle va même changer de nom à un moment donné, elle va se présenter avec le nom de sa mère. Elle va faire face à la culpabilité. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui a manqué dans l'éducation que j'ai donnée à mon fils, que j'ai aimé, pour qu'il arrive à de tels gestes, à accomplir un acte aussi terrible et aussi affreux ? Elle avait été chassée de sa maison par son mari qui était violent. Son mari l'a frappée, l'a violentée, mais frappé aussi ses enfants. Il avait frappé son fils à l'âge de 5 ans avec un coup de poing en plein visage. Donc forcément, il y avait beaucoup de traumatisme, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le cœur de cet homme. Mais elle cherchait les réponses. Elle dit, mais comment, qu'est-ce qui a manqué? Où sont les erreurs que j'ai pu accomplir? Et la douleur et l'angoisse quand elle rentre chez elle dans cette maison qui est vide, c'est déjà terrible de vivre cela. Mais c'est pas tout. Je voudrais qu'on puisse passer la vidéo pour qu'on voit la suite de l'histoire de Monique Lépine.
Pas être reconnue parce que je devais travailler 3 mois après les événements. J'ai eu beaucoup de souffrances dans ma vie, à différents niveaux. Mais quand mon fils a commis ces gestes-là, c'est comme si tu étais transpercé dans ton être entier. Tu as porté cet enfant-là. Et tout à coup, il devient un criminel, un reclus de la société. J'ai été mère monoparentale, j'ai donné ma vie pour mes enfants. Et voilà que mon fils me remercie de cette façon-là. Je pense qu'il n'y a pas de souffrance plus grande que d'être la mère d'un criminel. La nuit arrive, je dois me coucher seule dans cette maison. Et là, l'angoisse vient. Dans le noir, on dirait que tout prend une autre dimension. Tout est amplifié. Et je suis là dans mon lit. Et je m'imagine que mon fils vient avec un couteau pour me percer les entrailles. Il n'aimait pas les féministes. J'avais l'impression d'être comme une féministe. Et je me disais, mais c'est peut-être à moi qu'il en voulait. Quand mon fils a commis ses gestes, c'est comme s'il était venu me tuer à l'intérieur de moi. Ma préoccupation à ce moment-là, je venais de perdre un enfant, il m'en restait une. Je voulais tout faire pour la protéger. Elle avait un mal d'être. Elle était honteuse à cause des gestes de son frère. Et plutôt que de se réfugier dans l'amour de Jésus, elle s'est laissée influencer autour d'elle par des mauvais amis et par des gens qui prenaient de la drogue. Plus tard, quand elle était accro à la cocaïne, j'ai su qu'elle était vraiment avancée dans la drogue. Et quand j'ai découvert ça, c'est comme si j'avais voulu la sauver de cette situation-là. Je voulais pour elle qu'elle puisse devenir sobre. Et ma fille ne voulait pas laisser sa drogue. Et j'ai découvert qu'elle faisait de la prostitution. Ça m'a fait un coup. À un moment donné, les policiers sont arrivés chez moi encore une fois pour m'annoncer que ma fille était gravement malade. 7 ans après la mort de mon fils. Quand je suis arrivée à l'hôpital, elle était déjà en soins intensifs et elle est morte 6 heures après. Mais là, quand je suis revenue chez moi et que j'ai réalisé mon état. Toute ma vie avait été concentrée pour mes 2 enfants et je n'en avais plus. Et je suis tombée dans une grande dépression. J'étais comme un vase brisé en 1000 miettes. Il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Le jour, la nuit, j'avais pas le goût de rien. J'avais même plus le goût de vivre. Et je pense que j'aurais pu me laisser mourir en arrêtant de manger. Je restais de longues heures au lit. Je ne voulais voir personne. Mais je continuais à aller à l'église. J'avais besoin de ce lien-là. Je pleurais du début à la fin. J'étais dans un état déplorable. Un dimanche matin, j'étais à l'église et ce matin-là, j'avais énormément de tristesse à l'intérieur de moi. Et j'étais là et à un moment donné, c'est comme si mon âme sortait de mon corps. Et je me suis appuyée sur une femme qui était à côté de moi et je lui ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. J'étais rendue au fond du bain. Je ne pouvais plus rien par mes propres forces. Et voilà que j'entends cette voix qui me dit, « Qui fait battre ton cœur? » J'ai dit, « C'est toi, Seigneur. » Et j'avais 2 chemins devant moi, la mort et la vie. Et Jésus me demandait, « Choisis le chemin que tu veux prendre. » Et alors, j'ai dit, « Seigneur, pas par mes propres forces, mais avec ta grâce, je vais choisir le chemin de la vie. Mais pour aider des personnes qui, comme moi, souffrent en silence. Et dès que j'ai pris la décision, il m'a redonné goût à la vie. J'ai vu des portes s'ouvrir devant moi, des portes de restauration, de reconstruction aussi. Dans ma vie, il y a eu beaucoup d'abandon. Premièrement, mon mari, mes enfants sur qui j'avais fondé de grands espoirs, qui, au moment où ils auraient dû commencer leur vie, me quittent, mais dans des situations tragiques. J'ai saisi que Jésus a dit qu'il ne nous laissait jamais seuls. Et j'ai développé cette confiance en Jésus. J'ai cherché mon papa céleste. Il disait qu'il s'occupait de la veuve, de l'orphelin. Et j'ai dit, bien, c'est mon cas. Je suis veuve, je suis orpheline et j'ai besoin de toi pour me réapprendre à aimer. Je suis certaine que si Jésus n'avait pas été présent en moi, je n'aurais pas pu survivre aux deux drames de ma vie. Il était présent en moi à tout instant. Mon nom est Monique Lépine et je suis deuxième.
Je suis deuxième parce que le premier, c'est Jésus. Est-ce que cette femme, elle n'avait pas de bonnes raisons de fuir ? Est-ce que cette femme, elle n'avait pas de bonnes raisons de mettre le plus de distance possible entre elle et Dieu ? Je crois qu'elle avait toutes les meilleures raisons du monde. Mais à un moment donné, elle a fait ce choix. Alors qu'elle était confrontée, elle était aspirée par l'angoisse. Elle a fait ce choix de la vie en s'appuyant sur Jésus. Mais vous savez que cette femme, elle n'a pas simplement retrouvé la vie, mais c'est qu'ensuite, elle a pu avoir honte du nom qu'elle portait. Elle s'est laissée identifier comme étant la mère de ce meurtrier. Et elle a été invitée pour faire des tas et des tas de conférences. Non seulement dans les églises, parce qu'elle est chrétienne, mais elle a été sollicitée par des associations laïques, de lutte contre la violence, des choses comme ça. Elle est allée dans des prisons, elle a donné son témoignage dans des prisons. Elle a été invitée à plusieurs émissions de radio, plusieurs émissions de télé, pas simplement au Canada, mais dans le monde entier, partout dans le monde. Parce qu'elle a fait ce choix-là, elle est rentrée dans la mission que Dieu lui a donnée. Ce qui aurait pu être dévastateur et totalement destructeur, cette crise qu'elle a vécue, c'est ce qui lui a permis de devenir la mère spirituelle de dizaines et de dizaines de personnes. Parce que vous pourrez aller voir sur Internet, son témoignage se trouve dans de nombreux journaux et pas que des journaux chrétiens. Et elle dit, moi, je ne serai pas une grand-mère qui amènera ses petits-enfants promener au parc. Mais aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui me considèrent comme leur mère spirituelle. Parce que j'ai eu une parole qui a changé leur vie, au travers de ce que j'ai pu vivre. On va se recueillir ensemble. Ouais, Guillaume, tu peux revenir, s'il te plaît. Un jour, il y a des pharisiens qui sont venus voir Jésus pour lui demander de faire un miracle. Ils disaient, prouve-nous que tu es le sauveur. Prouve-nous que tu es celui qui est envoyé par Dieu. Et Jésus leur a répondu, là, vous cherchez un miracle, vous êtes méchant, infidèle, vous réclamez un signe miraculeux, mais je ne vous donnerai aucun signe, si ce n'est celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Et là, il parle de lui. Jésus est en train de dire, je suis plus que Jonas. Jonas a été jeté à l'eau pour sauver les marins. Mais il était le signe d'un plus grand sacrifice qui était destiné à sauver tous les hommes. Mon sacrifice, le sacrifice de Jésus, qui est resté 3 jours dans le tombeau et qui en est ressorti vivant. Le Fils de Dieu est plus que Jonas. L'épreuve vous angoisse. Elle vous donne envie de fuir Dieu. Elle vous donne envie de ne plus entrer dans la mission qu'il vous a confiée. Quelque chose qu'il a dans sa main, qu'il vous a communiqué, mais vous ne voulez plus en entendre parler. Sachez que Jésus, il a connu l'angoisse, jusqu'à transpirer du sang, c'est ce que nous dit l'Écriture. Il sait ce que c'est, à 100%. Vous savez que Jésus, il a eu envie de fuir. Il a eu envie de mettre de la distance quand il était à Gethsémané. Que si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, qu'est-ce que ça veut dire, je voudrais partir, je voudrais mettre de la distance. Il a été enserré, mais pas par un grand poisson, il a été enserré dans les liens de la mort, Jésus. Donc n'ayez aucun doute sur la compassion de Jésus, sur l'amour de Jésus. Ce que vous traversez, la crise qui est la vôtre, il la connaît parfaitement. Il s'identifie totalement à vous. Quand notre volonté est en défaçage avec celle de Dieu, on se dit, mais Dieu, mais t'es où? T'es au fond de l'éternité, t'es au fond de la galaxie, t'es pas avec nous, t'es pas avec moi. Mais en fait, au travers de Jésus, le Fils de Dieu, Dieu, il est au plus proche de nous. Et quand il nous dit, je sais ce que tu vis, je connais la crise dans laquelle tu es, on peut le croire. C'est la vérité. Il l'a vécu. L'épreuve, elle dure, la maladie est là, la blessure est là, la tristesse est là, l'angoisse est là peut-être. Mais pour que je puisse avoir des perspectives malgré la crise, malgré l'épreuve, j'ai un choix crucial à faire. C'est rechercher la présence de Dieu. Ça a été notre invitation ce matin. C'est de me confier en Dieu. Et en me laissant consoler, en me laissant façonner, en me laissant préparer, en me laissant préparer, Dieu me rend encore plus apte à remplir la mission qu'il m'a confiée. C'est dur, je vous avoue, c'est vraiment dur de partager ça avec vous ce matin. Parce qu'il y a bien des gens qui sont dans des situations qu'on ne peut pas comprendre. Mais si simplement il y avait un mot, une phrase de ce qu'on a pu partager ce matin qui vous permet de vous relever et qui vous permet d'entrer dans cette mission que Dieu a prévu pour vous, eh ben, ce serait ma récompense. Parce que je crois qu'il y a des trésors. Dieu nous a façonnés d'une manière particulière. Il a mis en nous des dons, il a mis en nous des compétences. Nous sommes porteurs de trésors et ce n'est pas appelé à être étouffé. Pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, pour que le royaume de Dieu s'étende, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres, nous encourager les uns les autres, pour que nous puissions rester ces flambeaux, il faut que ce trésor-là s'exprime, et ça ne peut se faire qu'au travers de la grâce de Dieu. Alors je voudrais qu'on se recueille ensemble, et qu'on demande à Dieu sa grâce. C'est un Dieu de grâce. Dieu court après vous, je suis certain. Vous croyez que Dieu vous a abandonné, mais Dieu court après vous. Maintenant, c'est est-ce que je veux me laisser me rattraper? Est-ce que comme Jonas, je veux me laisser rattraper? Est-ce que même si je ne sors pas immédiatement de cette tempête, je suis prêt à m'abandonner entre ses mains pour pouvoir entrer dans quelque chose d'autre, passer une étape supplémentaire dans ma vie et entrer dans cette mission qu'il m'a confiée? C'est la question que nous sommes appelés à nous poser, et peut-être certaines personnes plus particulièrement que d'autres. Je voudrais qu'on se laisse guider par ce moment, qu'on se laisse porter par la musique et qu'on puisse ouvrir notre cœur devant Dieu. Parce que Dieu ne veut pas l'angoisse, il ne veut pas la mort, il ne veut pas la tristesse, il ne veut pas que ce soit un état continuel. Ça, c'est un moment et ça ne peut être qu'un moment dans ma vie si je me laisse rattraper par Dieu. Si j'accepte de me soumettre et de saisir la main de Dieu pour qu'il me sorte de cette situation, qui me sorte de cette tempête dans laquelle je me noie, de cette crise dans laquelle je suis.